Léa,
Clément,
Maïli,
Martin,
Kauta,
Noan,
Joyce,
Iman,
Nil, Léonce,
Chad.
À la jeunesse, à la jeunesse,
les migrants,
Making Waves,
Sono Maujat, Avignon,
présente,
à la jeunesse,
les migrants,
au Bacharatan, Mimirajan, Avignon.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Nous sommes le 11 juillet 2025 au cloître Saint-Louis et on est ensemble en direct du Festival d'Avignon pour notre deuxième émission. La parole n'est pas d'argent et le silence n'est pas d'or. El-Kalam Laysamin Nokout ou Samtu Laysamin Dahab. Ce sont les mots d'Amazir Khatib, auteur-compositeur du groupe Gnawa Diffusion. Je m'appelle Imen et je suis en compagnie de Jade, Noan, Clément et Kauta.
Bonjour.
Salut. Coucou. Et dans cette émission, nous parlons d'argent, des fossés que ça crée, de sa valeur, son intangibilité et de son impact sur l'humanité.
À la jeunesse, les micros.
Mais Adox, regardez le cas.
Donc, on vient d'entendre une vidéo qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux au Maroc. Et très concrètement, cette bonne femme explique que si tu as de l'argent, tu vis. Mais si tu n'en as pas, on te marche dessus. Et que nous tous, frères et sœurs marocains et marocaines, on sait ce que c'est. Quand on a de l'argent, on est la bienvenue. Et si on n'en a pas, que Dieu nous vienne en aide. Elle raconte aussi que si elle avait de l'argent, elle ne serait pas au Maroc, mais au Brésil ou dans un autre pays en train de vivre sa vie. Bon, bah, sujet sensible, apparemment, vous êtes à l'aise.
Oui, ça va.
Ça va, on peut en parler.
Oui.
Bah, je sais pas pour vous, mais moi, dans un contexte marocain, quand j'ai pas d'argent, je peux à peine sortir de chez moi. Je peux sortir, mais en fonction de combien j'ai dans la poche, je visiterai deux versions différentes de mon pays, El Maghreb et Morocco. Il y a une version locale, El Maghreb, et il y a une version touristique, ultra riche et américanisée, Morocco. Elles cohabitent, mais il y a un cadenas sur une des deux portes. En plus, je peux passer une journée avec des potes à la maison et dépenser moins de 10 euros pour tous mes besoins journaliers. Comme je peux aller manger une pizza tranquille à midi pour 12 euros quand j'ai de l'argent normal. Peut-être que, en vrai, je ne sais pas gérer mon argent, mais il y a des gens à qui on impose cette différence. Il y a des gens qui voient un monde de richesse incroyable à deux pas de chez eux, et ces mêmes gens n'ont pas les moyens d'y avoir accès. On pense à eux des fois. Kauta, toi, t'en penses quoi? Tu vis ça comment?
Je comprends ton ressenti, Imen. Moi, je vis à Casablanca et j'ai vraiment l'impression que l'évolution urbaine de cette ville créer de plus en plus un fossé entre les classes sociales, mais aussi ça crée un sentiment d'exclusion. Des fois, quand je me balade dans des quartiers aisés, j'ai vraiment l'impression que je ne suis pas la bienvenue si je ne suis pas habillée d'une certaine manière, si je ne parle pas d'une certaine manière. Et j'ai l'illusion que je suis en sécurité. Et j'ai, au final, on a l'impression que même la sécurité, ça a un prix.
Ouais, je peux comprendre, mais l'argent, c'est quoi? De base, c'était supposé servir de valeur d'échange. Question d'éviter les conflits du troc. Mais aujourd'hui, on a juste besoin d'une table de téléphone pour pouvoir se payer des trucs souvent très inutiles. Et ça pousse à se demander est-ce que ça vaut réellement cet argent aujourd'hui. J'ai l'impression que le rôle de l'argent varie entre outil de survie et objet de désir en fonction de combien on a sur son compte. Et cette semaine, l'INSEE, qui est l'Institut National des Statistiques et des Études Économiques, a publié un rapport sur les inégalités de richesse. L'écart entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres n'avait pas été aussi énorme depuis les années 70. Et il y a un truc que j'avais vu qui m'avait laissé sans voix. La première fois que je suis venue en France, en 2023, j'ai rendu visite à un ami à moi à Marseille et je me suis rendu compte à un moment qu'il payait tout avec un découvert de moins de 200 euros sur sa carte. Ça m'a rendu folle, mais moins de 2000 dirhams. Sachant que, quand même, au Maroc, un SMIC, c'est 350 euros. Donc c'est limite, le gars, il vit avec moins un SMIC. Et quand t'as pas de thune, t'as de la thune, c'est fou. Non, mais. Noan, Jade, Clément, s'il vous plaît, mais expliquez-moi, ça se passe comment le rapport à l'argent en France? Et comment ça se fait que vous pouvez payer des trucs sans argent dans ce pays? Jade? Bah, l'argent, c'est pour moi un sujet tabou de manière générale, en tout cas de ce que je vois dans la vie et dans les médias. Mais après, personnellement, entre mes proches et moi, c'est pas forcément quelque chose de tabou. On peut parler salaire sans souci et on peut même se donner des conseils pour gérer notre budget et ou demander une augmentation. Concernant le fait de pouvoir être à découvert, je pense que c'est pour laisser la possibilité aux Français de contribuer à l'économie, même s'ils ne possèdent pas d'argent entre guillemets réel, on va dire. Et toi, Noan ?
Moi, je suis pas trop d'accord. Perso, je trouve qu'on n'a pas vraiment de tabou en France pour parler d'argent. Ou alors, c'est peut-être parce que je côtoie que mes amis et du coup, avec eux, on peut parler de salaire sans filtre, etc. Par contre, ouais, moi, j'ai passé une année où j'étais full à découvert en fin de mois. Ça faisait du moins 1000 parce que j'avais pas mon salaire encore. Et c'est très stressant de savoir que tu payes avec de l'argent que t'as pas. Tu payes un truc et au final, ça te coûte encore plus cher parce que tu t'en rends pas vraiment compte et parce qu'il y a les agios. En vrai, les banques, elles se gavent et elles font pas dans le social.
Et toi, Clément ?
Eh ben, écoute, Imen, moi, j'ai jamais été à découvert et j'espère que ça sera jamais le cas parce que ça voudrait dire que j'aurais plus d'argent du tout. Et ça me fait vraiment flipper. Mais si un jour je suis réellement à découvert, pas le choix, faudra faire avec.
Ah, donc je vois, c'est pas tout le monde qui est dans cette situation. Mais c'est quand même fou de se dire qu'on peut utiliser un argent qu'on n'a même pas besoin d'avoir au final. En plus, plus t'es pauvre, plus tu payes cher.
À la jeunesse ! À la jeunesse !
Les migrants.
Nous sommes toujours au cloître Saint-Louis, on n'a pas bougé. Avec comme invités Audrey Vernon et Patrick Boucheron. Et notre sujet, c'est l'argent. Bonjour Audrey, bonjour Patrick et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron, vous êtes professeur au Collège de France depuis 2015.
C'est pas faux.
Spécialiste de l'époque médiévale et de la Renaissance italienne. Vous avez écrit, enseigné, parlé à la radio, à la télévision, dans des livres et parfois sur scène.
Et vous êtes un optimiste. Vous avez dit dans un entretien avec le youtubeur Nota Bene, je cite, « On ne se heurte pas à un mur si on veut faire des choses aujourd'hui. Malgré tout, on a la possibilité en France, en politique, de tenter des choses. Et d'une manière générale, on est moins contraint qu'on ne le pense. On est plus libre qu'on ne le croit. » On est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Ah bah, et moi alors, merci.
Bonjour Audrey Vernon. Bonjour. Vous êtes comédienne, humoriste. Vous écrivez en 2009 la première partie du spectacle « Comment épouser un milliardaire qui dénonce les inégalités économiques ». Vous êtes également chroniqueuse, vous avez par exemple dénoncé sur France Inter l'hypocrisie des riches.
Durant le Festival d'Avignon, vous présentez « Comment épouser un milliardaire 2 », qui est donc une suite de votre premier spectacle du même nom. Vous partagez avec le public des astuces pour réussir à épouser un milliardaire et sauver sa peau dans ce monde en crise. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené à autant aborder ce sujet ?
Quand j'ai écrit le premier en 2009, c'était au moment de la crise des subprimes, et bah, j'observais comme tout le monde cette explosion des inégalités. Je me suis dit que c'était une bonne idée de tomber amoureuse des milliardaires pour pouvoir en parler de façon joyeuse. Et en 15 ans, ça s'est quand même beaucoup aggravé puisqu'ils ont un peu fait sécession. Là, ils sont 3028. Quand j'ai écrit le 1, ils étaient 793. Là, ils se mettent à fabriquer des armes. Leur richesse a explosé. Leur taux d'imposition a diminué énormément. Et on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont sous le seuil de pauvreté. Et ce monde inégalitaire, c'est vraiment pas le monde dans lequel je rêve de vivre. Moi, j'admire beaucoup les peuples autochtones, justement, par leur système beaucoup plus égalitaire que le nôtre. Et je pense que l'humanité peut faire mieux. On doit faire mieux. On va. Mieux.
Pourquoi avoir décidé d'utiliser le théâtre pour vous exprimer sur le capitalisme et pas la politique, par exemple, ou autre ?
Parce que les politiques n'ont pas de pouvoir, c'est quand même le pouvoir économique qui a le pouvoir réel. J'ai l'impression que les politiques sont au service des milliardaires, comme dans d'autres époques dans l'histoire. Donc j'ai préféré utiliser la pensée de Arendt. Hannah Arendt utilise Brecht en disant les grands criminels politiques doivent à tout prix être mis à nu et surtout être livrés au ridicule. Ce ne sont pas de grands criminels politiques, mais des hommes qui ont commis de grands crimes, ce qui est quelque chose d'entièrement différent. Et voilà, j'utilise le rire pour justement enlever la fascination, enlever l'idée que ce sont des génies du mal. Il n'y a rien de génial à être quelqu'un avec aucune empathie, aucune intelligence émotionnelle. C'est vraiment des gens qui sont absolument néfastes et qui n'ont aucune qualité. Voilà. J'essaie d'enlever l'admiration.
Et vous, Patrick, est-ce que vous avez de l'empathie ? J'aimerais vous poser la question de...
Si je
vous
donne... pas l'air d'avoir de l'empathie.
Si. Oh, totalement. Si, beaucoup.
Est-ce que, par exemple, si je vous donne 100 millions d'euros, oui. Là, tout de suite, vous faites quoi avec ? Vous investissez ?
Donnez-les, puis vous verrez.
Voilà. Et vous, Audrey, vous savez ?
Ah mais moi je sais exactement chaque centime. Moi je joue beaucoup à l'euro million et à chaque fois j'ai plein d'idées. Je veux monter un tiers lieu. Je pense que je rachèterai tous les commerces autour de chez moi pour en faire des trucs gratuits. Non, j'ai pas mal d'idées avec 100 millions. C'est bien, vous êtes sympa. 100 millions, c'est bien.
On est généreux.
Un petit million quoi.
100. Patrick, c'est quoi le dernier truc cher que vous avez acheté ?
Un appartement. J'ai pas l'impression d'acheter des choses chères. Et au fond, je sais pas si ça me ferait si plaisir que ça. Mais quand même, j'aurais répondu à cette question. C'est intéressant. Là, j'ai fait une pirouette. Vous avez dit que j'étais spécialiste de l'histoire du Moyen-Âge et de la Renaissance, c'est ça ? Au Moyen-Âge et à la Renaissance, il y avait des écarts de fortune aussi importants qu'aujourd'hui. Mais alors, ceux qui étaient les plus riches, je sais pas, moi j'ai travaillé sur l'Italie de la fin du Moyen-Âge, les Médicis par exemple. Ils faisaient des choses. Ils construisaient des palais, mais pas seulement des palais, l'espace public dans lequel on est encore. Et d'une certaine manière, au fond, la question de la richesse aujourd'hui, de la géopolitique de la richesse, c'est pas tant qu'est-ce qu'ils en font. Trump n'est pas le premier milliardaire à être président des États-Unis. C'est souvent des milliardaires. Mais c'est le premier à ne pas être philanthrope, à ne pas donner. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécifique à notre aujourd'hui.
Et c'est ce qui fait vivre Florence encore aujourd'hui. Mais justement, il y a Maëlie, que vous allez rencontrer bientôt, et Noan, qui sont allés poser cette question à des personnes dans la rue d'Avignon pour savoir ce qu'elle ferait avec 100 millions d'euros.
Si je vous donne 100 millions d'euros, qu'est-ce que vous en faites maintenant ?
Bah, je les donne au SDF.
Tout ?
Ouais.
Tout.
Pareil.
J'investis dans la lutte contre l'environnement après avoir mis la famille à l'abri à minima.
Alors moi, peut-être pas contre l'environnement, mais...
Pour l'environnement, ouais.
Pour l'environnement, ouais, je sais pas, ça fait beaucoup d'argent, donc ouais, on garde un peu pour moi, puis le reste... J'essaye de l'utiliser intelligemment pour mon prochain.
Et moi, j'achète un lit confortable et je dors. Un, ça suffit. On verra après pour d'autres.
100 millions d'euros ?
Ouais.
Bah, je fais un partage égal avec mes quatre gosses. Je m'achète une maison, je pense.
Je pars faire le tour du monde. C'est ma principale ambition d'aujourd'hui. Faire le tour du monde, connaître toute la planète.
Je bouge pas de mon banc. J'attends plus tard pour décider.
Ça me fait trop peur, j'ai pas envie d'en avoir. Oui, du tout.
Je panique, je sais pas.
100 millions d'euros, c'est pas un petit peu trop ça ? En petites pièces ? Parce qu'on aime bien les vieux, les petites pièces jaunes. J'ai plein de trucs à faire. Je crois que j'achète des charentaises. Des charentaises. C'est pas ce que c'est que des charentaises. Ça me gosse. C'est des pantoufles. Les grosses pantoufles à carreaux de pépé. Voilà, ça existe pour les mémés aussi. Voilà, et puis je crois que je fais beaucoup de bien dans ce monde pourri. Voilà.
Comme quoi, par exemple ?
Bah, par exemple, tu vois, t'acheter des fringues correctes parce que voilà, tu ressembles à rien. Okay. Voilà. Non, t'es mimi comme tout. Non, mais regarde, il y a plein de gens qui sont pas bien, qui crèvent de faim, qui. 100 millions d'euros, tu te rends compte ? C'est énorme. Après, si je reste avec plus rien, j'en ai rien à foutre. De toute façon, le pognon, c'est fait pour être dépensé. Pour la peine de faire un PEL, ils nous piquent tout. J'allais dire un gros mot, ces enculés, mais c'est pas grave. Voilà.
Je rembourse mes dettes.
J'ai droit à la carte Joker ?
Ouais.
Waïb, tu peux venir s'il te plaît ?
Est-ce que lui il a fait qu'il veut gagner des millions ?
Je devrais répondre pour de vrai ?
Ouais.
Donc je vais essayer de mettre un peu dans les crypto-monnaies, peut-être un peu dans le. Non, en vrai, immobilier, je pense. Immobilier à fond.
En France ?
Beaucoup au Maroc, Marrakech, Casablanca, Tanger. Et donner une petite partie à la daronne pour qu'elle arrête de bosser.
J'achète un tableau de Soulages et je fais le tour du monde, avec des, pas toute seule, hein, avec des amis.
Il y a une vie dans laquelle je vous dénonce à la police, parce qu'on ne peut pas sortir 100 millions d'euros comme ça, de nulle part, et que ce soit complètement clean. Et il y a une autre vie dans laquelle je m'achète un super accordéon, en bois massif, avec 12 voix, 40 registres.
Et vous, si je vous pose la question ?
Là, on n'entend que les réponses des gens qui ont bien voulu répondre. Mais en vrai, c'est encore un peu tabou de parler d'argent.
Patrick Boucheron, est-ce que ce tabou peut être compris en regardant l'histoire ?
Oui, sans doute. En même temps, il y a plein d'idées reçues. On dit, oh, en France, on n'aime pas parler d'argent. C'est pas tout à fait vrai, quand même. Enfin, regarder la télé, ça parle de quoi, sinon d'argent ? Ça ne parle que d'argent. En somme. Et même les jeux d'argent, bah d'ailleurs, on fait semblant, on joue à ça. On joue, et si on avait 100 000 D'une certaine manière, moi, je ne pense pas que ça soit un tabou. Je pense que, au contraire, le tabou, le vrai tabou, c'est l'appauvrissement, c'est la misère, c'est la précarité. Voilà. Les riches n'arrêtent pas de dire qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils sont riches, alors qu'ils ne cessent, au fond, de l'afficher et de l'exhiber. Voilà. Et toute la question, c'est de savoir pourquoi on le supporte et qu'est-ce qui fait spectacle dans cet affichage.
C'est pas justement la pauvreté qui fait que, du coup, l'argent devient un sujet tabou, parce que, bah, justement, les riches s'enrichissent sur les pauvres et, du coup, impactent la vision que les gens ont de l'argent et les sujets de discussion autour de ça.
Oui, bien sûr. Moi, ce qui me frappe, finalement, c'est la capacité de... C'est le consentement. C'est l'acceptation. Voilà. Mais c'est à vous de répondre à cette question. Parce que c'est à vous qu'il appartiendra, au fond, de trouver les réponses ou les ruses. Vous disiez que j'étais optimiste. Je le suis parce que j'ai lu les mêmes autrices que vous. J'ai lu Hannah Arendt, et Hannah Arendt, elle dit quelque chose de l'histoire, c'est que c'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable. Et je crois qu'au fond, si on est là, ensemble, si on fait du théâtre, si on fait l'histoire de la radio, c'est pour se délier, c'est pour s'émanciper, c'est pour faire comprendre, au fond, qu'on peut plus qu'on ne le croit. Voilà. Et se détacher, de se délivrer des contraintes qui pèsent sur nos vies.
Et historiquement, l'argent, c'est quoi ? C'est un outil ? Un récit ?
Ça devrait l'être. Un récit ?
Ou une arme ?
Un récit. Pourquoi vous dites récit ?
Les gens, ils ont, comme vous le dites, à partir de l'histoire, il y a pas mal de gens qui ont réussi à marquer l'histoire avec leur fortune, l'architecture, la culture, l'art.
Et dans ce cas-là, l'argent permet, au fond, d'accéder à une narration. Mais le danger, c'est quand... Ça, il y a plein de romans qui le montrent. Je pense à Don DeLillo, par exemple, Cosmopolis, qui dit un truc, qui est en fait un roman sur les années 2000 d'un auteur américain qui voit tourner de plus en plus vite, tournoyer les cours de la bourse à Times Square, et qui dit quelque chose d'essentiel, c'est que l'argent est devenu son propre récit. L'argent est devenu sa propre histoire. Et auparavant, vous savez, on disait, on va survivre pour se raconter des histoires. Ça, c'est ce qu'on peut voir actuellement à la Cour d'honneur, les Mille et Une Nuits. Les Mille et Une Nuits, c'est quoi ? C'est l'histoire de quelqu'un qui veut se sauver en se racontant une histoire, et puis une autre histoire, et puis une autre histoire. Et là, c'est comme si, au fond, le monde capitaliste voulait se sauver en dépensant. Pourquoi il y a tant de magasins de luxe dans les aéroports, vous pensez ? Parce que tout le monde a peur en prenant l'avion. Et ceux qui ont peur en prenant l'avion, c'est surtout les riches qui prennent beaucoup l'avion.
C'est détaxé aussi.
Oui. Enfin, pourquoi ? C'est quand même une pulsion assez particulière d'aller chercher chez Hermès, d'aller acheter comme ça, sur un coup de tête, parce que vous pouvez le faire, un sac à 6 000 euros. C'est, en fait, c'est une pulsion. Et c'est une pulsion parce qu'on croit se sauver. Et donc l'argent est devenu sa propre justification et sa propre narration.
Et vous, Audrey, vous en pensez quoi ? Est-ce que l'argent, c'est un outil, un récit ou une arme ?
Alors déjà, c'est une fiction. C'est une fiction, puisqu'en fait, on écrit un chiffre sur un bout de papier, ça lui donne une valeur. C'est pas quelque chose qui existe partout dans l'humanité. Il y a des peuples qui vivent sans argent. Donc c'est une construction sociale. C'est quelque chose dont on pourrait se débarrasser si on voulait. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une arme. Et je pense que c'est culturel, c'est-à-dire qu'on a intégré les inégalités de façon très forte. Et puis il y a tout un discours culturel des intellectuels, des universitaires, des artistes qui glorifient cette extrême richesse en permanence. Quand on voit mes copines comédiennes qui sont égéries de Chanel, Vuitton, qui sont quand même des marques qui fabriquent du parfum avec un produit pétrolier, un déchet de l'industrie pétrolière. Dans ma tête, quand je les vois, je me dis, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles sont égérie Total, en fait. Elles sont égérie Shell, Total, BP. Et quand je vois Marion Cotillard qui va au défilé Chanel, je comprends pas, en fait, pourquoi est-ce qu'elle fait ça pour les frères Wertheimer, qui sont des milliardaires, qui vivent en Suisse, qui ne payent pas d'impôts. Et tout le malheur que ça crée, ça... Mais tout ça... C'est aussi parce que les médias aujourd'hui appartiennent aux milliardaires, et que donc le discours dominant, le discours culturel. Et ce qui est rigolo, c'est que
je me rends compte que les gens sont plus attachés, par exemple, aux autoroutes, aux supermarchés, qu'aux hérissons. Et donc, c'est quelque chose de entièrement culturel. C'était notre mère actuelle, notre père actuel, c'est le capitalisme, c'est le pétrole, c'est ce monde matériel extrêmement fort. Et pour sortir de ça, va falloir qu'on croit au miracle de Hannah Arendt.
Avec tout ça, on en vient à se demander si les inégalités, c'est pas quelque chose de plus normal qu'on le pense, Patrick. Il n'y a pas eu un trou dans l'histoire, où ces inégalités étaient quand même nettement moins fortes.
Oui, bien sûr, il y a une histoire des inégalités. Et on est dans un moment qui est incroyablement inégalitaire. Peut-être on n'a jamais atteint... Si, il y a, j'en ai donné quelques exemples. Je vous ai dit les Médicis à Florence, je n'ai pas pris ça au hasard. Il y a un moment de l'histoire des États-Unis où l'écart des fortunes est maximal. Mais aujourd'hui, il n'a jamais été aussi important. Et je le répète, la question est moins le mécanisme, au fond... économique qui permet de produire les inégalités que la réaction sociale qui normalement devrait les réduire du moins elle n'est pas bridée par autre chose. Et cette autre chose, c'est la passion de l'inégalité. Voilà. C'est-à-dire que idéologiquement, il faut bien qu'il y ait un discours plus puissant encore que celui qui naturellement, serais-je tenté de dire, mais rien n'est naturel, donc je retire ce que je viens de dire, mais enfin, qui ordinairement peut nous pousser à l'égalité, il faut qu'il y ait quelque chose de plus puissant encore qui nous empêche d'accéder à cette aspiration et qui, au fond, va persuader ceux qui en auraient le plus intérêt que finalement, ce n'est pas une bonne idée. Et c'est effectivement la passion de l'injustice. Et il faut vraiment beaucoup de récits, beaucoup d'images, beaucoup d'investissements, beaucoup de télévision, hein, pour arriver à nous en convaincre.
Audrey, je pense que vous avez laissé Joyce un peu perplexe après votre spectacle Noce de Cristal, Comment épouser un milliardaire 2. Et en vrai, elle n'est pas encore totalement convaincue. Donc on va l'accueillir pour sa chronique.
À la jeunesse, les micros !
Les micros.
Cher Audrey Vernon, il y a quelques jours, j'ai vu votre spectacle « Comment épouser un milliardaire 2 ». Dans ce spectacle, vous apprenez au public les mille et une manières d'épouser un des 3028 milliardaires. À savoir quoi leur dire et quoi ne pas leur dire, pour mettre toutes les choses de notre côté. Toutefois, j'ai bien réfléchi et je ne me sens pas en être capable. J'aimerais beaucoup rester indifférente à tout le malheur qu'ils créent, tout ce qu'ils détruisent et tout ce qu'ils contaminent. Les milliardaires, c'est trafic, magouille, grenouillage et surtout leur premier principe, ne jamais culpabiliser. Mais comment on fait pour pas culpabiliser ? Moi, j'ai trop d'empathie pour épouser un milliardaire. Je suis trop sensible. Je pleure dès que mon père me dit « je t'aime ». Alors imaginez mon quotidien avec un milliardaire qui massacre des belettes, des loups, des renards pour en faire des manteaux de fourrure. C'est trop pour ma sensibilité. Audrey Vernon, vous dites que pour les milliardaires, être millionnaire, c'est être prolétaire. Mais moi, je suis contente dès que j'ai 2 € en poche. C'est mal barré. Vous me dites que les 10% les plus riches sont responsables des 2/3 du réchauffement climatique. Me dire que si j'étais femme d'un milliardaire, j'émettrais plus de carbone en 90 minutes qu'une personne dans la moyenne mondiale pendant toute sa vie, avec mes dizaines de résidences secondaires partout dans le monde, mes 108 voitures et 14 jets privés, mes 3 yachts et ma garde-robe qui ne tiendrait même pas dans la cour d'honneur du palais des papes. Je savais que les riches s'appolluaient, mais à ce niveau, ils projettent plus de méthane dans l'atmosphère que toutes les phages du monde réunies. Ah, mentalement, c'est pas supportable. Vous nous apprenez aussi, Audrey, que les riches, ils n'ont pas seulement des maisons sur terre, ils en ont aussi sous terre, des bunkers. Et ce n'est pas seulement pour se protéger de la guerre ou d'une apocalypse nucléaire. Non, non, non. C'est pour se protéger des gueux, de nous, là, de nous. S'isoler des pauvres, des précaires, des sans-dents, s'isoler des intermittents du spectacle. Et ouais, c'est ça que veulent les riches, être dans leur monde. Dans des bunkers de 3000 mètres carrés décorés par Jacques Musse avec le petit personnel pour leur servir des repas et leur masser les pieds. Et ouais. Autre bémol, c'est que j'ai 19 ans et je n'ai aucune envie d'avoir un sugar daddy qui a 2 fois l'âge de ma mère.
Après, cependant, s'il faut rentrer dans leur film, parce qu'ils se font des films, Audrey, de vous à moi, je ne serai pas la femme du millionnaire. Je serai dans le rôle de Robin des Bois des temps modernes, en costard-cravate trois pièces, comme James Bond, avec des petites pilules de cyanure si nécessaire. Sur ce, cher Audrey Vernon, merci pour tous vos conseils, mais je crois que je ne vais pas épouser un milliardaire. Tous mes vœux de bonheur pour vos 15 ans de mariage avec votre milliardaire. Signé MJ Denis.
Merci, c'est magnifique.
La jeunesse, les micros.
Merci Joyce pour ta chronique. Audrey, comment on fait pour la convaincre elle qui est un peu trop sensible pour épouser un milliardaire.
Je trouve qu'elle a bien bossé quand même. Elle a bien bossé les chiffres et tout. Donc moi, je pense que quand même, elle est déjà un peu convaincue. Parce qu'elle a un gros niveau là.
15 ans avec un milliardaire, c'est pas obligatoire. Normalement, ça dure moins un mariage avec un milliardaire.
Mais mon milliardaire, à moi, il est très sympa.
Ah d'accord. Ouais.
On s'entend hyper bien. Il m'explique la vie. Il me fait du mansplaining. Enfin, on se régale.
On adore.
On adore. Et mais oui, les 50 premiers sont aussi riches que les 4 milliards de personnes les plus pauvres de la population mondiale. 50 personnes. Eh bien non, mais pour te convaincre, je te rappelle que dans un monde à plus 4 degrés, on ne va pas survivre. Donc, tu seras bien contente d'avoir un milliardaire pour avoir un bon cœur.
Je vais réfléchir alors. Merci.
Merci.
Vous le dites dans votre livre « Billion Dollar Baby », Audrey. Quand on écrit un chiffre sur un bout de papier, ça lui donne une valeur. Patrick, qu'est-ce qui, dans l'histoire, explique qu'on est passé du troc à ce moyen d'échange ?
Parce que c'était plus simple, parce que ça pouvait aller plus vite, parce qu'on pensait que c'était neutre. Voilà. C'est cette fausse neutralité de l'argent comme valeur fictionnelle, effectivement, comme le disait Audrey, qui ensuite a été déjouée par l'histoire. Voilà. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'on parle d'économie, mais que l'économie est insuffisante, parce que plus puissante, d'une certaine manière, que ces mécanismes sont l'idée qu'on peut s'en faire. Et les histoires qu'on peut raconter autour d'elle. Voilà. Si ce n'était que ça, si ce n'était que ce qu'on dit, un billet de banque, c'est-à-dire voilà, une valeur faciale qui nous permet d'échanger plus rapidement et plus facilement que si on avait à troquer, ben on n'en ferait pas toute une histoire.
On ressent que l'argent disparaît, on va dire physiquement, mais que sa valeur augmente. Vous pourriez nous expliquer quel changement affecte cette valeur ?
Le fait que l'argent, vous voulez dire l'argent liquide, enfin l'argent
physique.
Oui, alors faut quand même y faire attention parce que moi-même je suis le premier à dégainer aisément mon portable et à vouloir de moins en moins avoir d'argent de poche. Il se trouve que voilà, j'étais en Chine au moment où ça s'est passé très vite. Le gouvernement chinois a décidé de supprimer l'argent liquide. C'était pour tracer les gens.
Ok, ouais.
C'est-à-dire que là, si on consent aussi à... Oui, non, il n'y a plus. Il n'y a plus.
Je ne savais pas non plus.
Il n'y a presque plus. Et tout le monde paye avec son téléphone. Et comme c'est la même application qui fait... toutes nos applications sont...
Tout est centralisé.
Tout est centralisé et tout est centralisé, comme on le dit précisément. Et donc, aux mains d'un État central. Donc, il faut y réfléchir à deux fois avant, au fond, d'avoir un rapport fonctionnel. C'est plus pratique. Ah oui, mais c'est plus pratique, mais c'est plus pratique pour qui ?
Oui, c'est surtout ça la question.
Audrey, vous pensez encore que l'argent peut relier ou protéger ?
Pourquoi encore ? J'ai déjà pensé ça, moi.
À vous de me dire.
Quand vous aviez 8 ans,
Non, mais je suis vraiment, vraiment pas du tout convaincue par le capitalisme. J'ai des souvenirs, même très anciens, enfants, de déjà être révoltée par les inégalités, déjà choquée, déjà triste que notre civilisation, ce ne soit que ça. En ce moment, je trouve que notre civilisation est extrêmement bête et ça me fait très peur. Ça me fait penser à aucun rapport, Mais le père de Gunther Anders, dont je parle dans le spectacle sur Arendt, c'est l'inventeur du test de QI. Et un jour, il a fait le test de QI au cousin de Gunther, qui s'appelle Walter Benjamin, qui est un poète incroyable, qui avait à peu près 9 ans. Et Walter Benjamin était si poète qu'il rate complètement le test de QI. Et à la fin de cette lettre assez dingue, le père de Gunther Anders dit « Une fois qu'on aura fait augmenter le QI de la population mondiale, la guerre... paraîtra comme un moyen archaïque de résoudre des conflits. Et aujourd'hui, quand je vois qu'on est en train de développer l'intelligence artificielle, donc de rendre l'intelligence humaine superflue. Et parallèlement à ça, le QI moyen de la population baisse de façon drastique. Je me dis, mais... Et on fait ça juste pour le profit. Donc voilà, on est dans un fonctionnement super bête en ce moment, mais je pense que ça va se retourner d'un coup, un peu comme au moment de l'esclavage. Du jour au lendemain, on n'avait plus le droit d'avoir des esclaves et tout ça, et c'était fini définitivement. Et je pense qu'il va y avoir un grand changement de paradigme aussi. On est en année 9 cette année en numérologie, donc normalement c'est à partir de l'année prochaine ou dans 2 ans. Le grand changement de paradigme.
Ok.
Inch'Allah.
Inch'Allah.
Merci beaucoup Audrey, Patrick, merci Jade et Clément. On continue avec ce qui nous relie et nous protège aujourd'hui, la musique. Et c'est Neil qui va nous en parler.
Messieurs, dames, une chanteuse comédienne est venue pour vous présenter un moment de douceur. Nous accueillons Laura Woody pour Mama, You've Been On My Mind. On vous écoute. Laura Woody.
Oui.
Vous êtes chanteuse comédienne américaine.
Oui, mais déjà, je veux dire que cette chanson, c'est de Bob Dylan, c'est pas de moi.
J'y venais.
J'aurais aimé, mais.
Évidemment, voilà. C'est une très belle chanson.
Merci.
Vous nous avez justement interprété, comme vous dites, une chanson de Bob Dylan. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous touche dans cette chanson.
Ce que j'aime bien, c'est le côté amer doux. C'est pas tu me manques, j'ai besoin de toi, c'est que je pense à toi.
Ouais.
Et c'est beaucoup plus subtil et adulte comme émotion, je trouve, que de juste dire « je t'aime, tu me manques, j'ai besoin de toi ». C'est non, je pense à toi et ça me suffit.
Ouais, quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, je me suis projeté dans le futur en vous écoutant. J'ai imaginé une de... Bon, moi, j'aimerais bien des jumelles comme vous. Une que j'appellerais Artemis et l'autre Athéna. Et je me suis dit, est-ce qu'elle chanterait pareil de moi ?
Franchement, je sais pas pourquoi je me suis dit ça, je me suis projeté.
Écoute, voilà. Je peux pas trop t'aider, mais je te le souhaite.
Assez parlé de moi. Cela fait maintenant une vingtaine d'années que vous vivez en France. Est-ce que votre rapport à l'argent, il a évolué depuis que vous y vivez?
Étant américaine, donc c'est très drôle d'avoir invité une américaine de venir parler d'argent. Le rapport change surtout avec l'âge, je pense. Déjà, on a la chance d'avoir l'intermittence en France et de pouvoir vivre de notre art convenablement et pas avoir 15 000 boulots à côté, parce que j'ai vécu longtemps comme ça en France. Mm-hmm. Et puis, oui, parce qu'ici, on a un filet de sécurité qu'on n'a pas chez moi. Si on tombe, on tombe. Mais on peut monter aussi très vite. Et je connais plein de gens qui ont fait et perdu des fortunes dans leur vie. Et c'est assez fréquent chez moi.
J'imagine. Eh bien, messieurs, dames, on peut tous remercier Laura Woody avec son interprétation de Bob Dylan. Mama, you've been on my mind.
Making Waves Avignon présente
à la jeunesse
les micros.
Merci beaucoup, merci Laura Woody et Emile. Nous sommes toujours au cloître Saint-Louis avec nos invités Audrey Vermont et Patrick Boucheron. Je vous rappelle que le titre de cette émission est « La parole n'est pas d'argent, le silence n'est pas d'or ».
On reprend avec vous Audrey. Vous définissez dans votre spectacle les milliardaires comme des serial killers pardonnables. Déjà, pourquoi vous les nommez comme ça?
Des tueurs en série. Pardonnable.
Pardonnable, mais vous les définissez surtout comme des tueurs en série.
Oui.
Pardonnable en disant en mode, bon, ils tuent des gens, mais...
Oui, mais c'est parce que je veux convaincre les spectateurs d'en épouser un. Il faut lisser leur image. Mais c'était très important pour moi de dire ce mot de tueur en série parce que je pense que c'est la vérité. Si je donne l'exemple de Taylor Swift qui passe sa vie en jet et qui a une empreinte carbone gigantesque, et dont une des spectatrices est morte pendant un de ses concerts à Rio pour épuisement thermique. Si on prend l'exemple de... Bah, non, en fait, pour moi, ils tuent vraiment tous des gens. Déjà, ils sont responsables de tellement de crimes. Je pense souvent aux extractions pétrolières. Je donne l'exemple d'un des proches de la ministre de l'écologie, Agnès Pannier-Runacher, qui donc fait partie de la famille Perraudeau, qui est propriétaire de Perenco. Et Perenco, c'est la deuxième entreprise pétrolière française, qui est une entreprise familiale, et qui ravage des territoires protégés, qui ravage des territoires de peuples autochtones, et tout ça dans une impunité immense. Je donne l'exemple du fameux tueur de l'Ouest, Vincent Bolloré, qui a à son actif un nombre de morts absolument gigantesque, et ces gens ne vont jamais en prison. C'est vraiment un grand mystère. D'ailleurs, il y a un procureur américain qui l'a dit, autre serial killer, la famille Sackler, qui a été responsable de la crise des opiacés aux États-Unis. En fait, il y a la famille Sackler plus Publicis en France qui ont été condamnés parce qu'ils ont déclenché une épidémie d'overdose. Il y a eu 700 000 morts quand même. Et la famille Sackler a négocié contre une amende de 4 milliards le fait que les poursuites soient abandonnées. Et le juge, quand c'est arrivé, a dit « Ah, ok, donc c'est pas la même justice pour les milliardaires et pour les autres. » Et effectivement, ce n'est pas la même justice pour les milliardaires. Et pour moi, c'était très important de dire ce mot de tueur en série. Ça vient de Jean Ziegler, un sociologue suisse que j'adore. Et c'est Jean Ziegler qui dit que ces gens n'ont jamais eu autant de pouvoir que même les papes, les empereurs, il dit souvent ça. Et il dit « Chaque enfant qui meurt de faim aujourd'hui est un enfant assassiné. » Et voilà, je pense que c'est très important de dire les mots parce que sinon, on est comme dans les sombres temps, selon Hannah Arendt, on participe au camouflage de la réalité.
À votre avis, on devient un meurtrier de masse à partir de quel montant sur son compte en banque?
compliqué. C'est vraiment. Et alors, il y a un autre truc que dit Jean Ziegler qui me paraît important, c'est détester des personnes ne sert à rien. Il faut comprendre l'ordre capitaliste du monde, qui est un ordre cannibale. Chaque être humain est donc investi à son égard du devoir d'insurrection. Le problème, ce n'est pas eux, le problème, c'est le système global. Et c'est là que j'ai envie de demander à Patrick, comment on fait pour que l'iceberg se retourne?
Ça se retourne, un iceberg. En tout cas, ça peut, oui, d'un coup. Bah, par exemple, reprenons Sackler. Évidemment que tout ça est terriblement injuste et qu'ils ont été condamnés, mais finalement, ils ont pu composer avec la justice. Mais si finalement, ils ont été condamnés, regardez ce film magnifique qui s'appelle « Toute la beauté » et le sang versé, qui parle de la mobilisation citoyenne autour de Nan Golding, justement, c'est parce qu'à un moment donné, certaines et certains se sont organisés pour rendre le crime, l'épidémie d'opiacés, visible. Et étant visible, il devenait intolérable à certains. Donc il n'y a pas 36 solutions, vous citiez Robin des Bois, il n'y a pas 36 solutions. Les Robin des Bois d'aujourd'hui, finalement, sont ceux qui rendent manifeste, qui rendent compréhensible, qui rendent sensible cette question de l'ordre du monde. Et le fait de la dévoiler, de l'exposer, c'est déjà, dans tous les sens d'ailleurs du terme exposer, c'est déjà la fragiliser. Vous parliez de Bolloré, d'une certaine manière on voit très bien comment aujourd'hui c'est la question de l'espace public, la radio, le service public, mais pas seulement ce que vous faites, l'espace public au sens large.
Pour l'instant, c'est lui qui gagne, c'est ça qui est horrible.
Pour l'instant, c'est lui qui gagne. Et c'est lui qui gagne, pourquoi ? Parce que là, il faudrait peut-être épouser un milliardaire. C'est-à-dire qu'un milliardaire, il faudrait que la démocratie épouse un milliardaire. Il doit bien y avoir en France, et pas qu'en France, des milliardaires qui ne consentent pas au projet idéologique de Bolloré et de Sterrin.
Ah, c'est bizarre, vous êtes encore pour les inégalités, du coup ?
Non. Je suis pour, à un moment donné, faire du judo, c'est-à-dire se battre avec l'arme de l'adversaire.
Voilà. Ça s'appelle les impôts, normalement.
Ça s'appelle les impôts, exactement. Mais justement, ça fait combien de temps que l'idée même de redistribution fiscale est systématiquement sapée par le discours politique, et pas seulement le discours politique de droite. Tout le monde y a contribué à cette délégitimation de la redistribution fiscale par l'impôt.
Mais la redistribution, elle est même dans l'autre sens, puisque là, c'est 211 milliards...
Elle fonctionne à l'envers.
À l'envers, ouais. Il y a un quart du budget de l'État qui va aux aides aux multinationales. Mmh. 211 milliards. L'éducation nationale, c'est 60 milliards. Il y a 211 milliards, un quart du budget de l'État qui va directement dans la poche des milliardaires. Et ça, c'est quelque chose de fou.
Moi, je voudrais rebondir sur le fait de détester ou de ne pas détester les gens. Je vais vous raconter une histoire. En fait, l'autre jour, j'ai rencontré Ibrahim, un joueur de Kora qui joue la Kora ici à la République. Et j'étais vraiment heureuse et étonnée de voir quelqu'un jouer de la Kora. Donc, je l'ai arrêté et on a discuté un moment. Et en fait, il m'a expliqué qu'il jouait pour se faire des petits pourboires et que sa musique, ça reste un miroir de ses valeurs et qu'il était incapable de vendre ses valeurs. Et je lui ai demandé pourquoi. Et pourquoi, à son avis, est-ce que les gens se permettaient de vendre leurs valeurs ? Il m'a dit que sûrement, ils le faisaient parce qu'ils étaient maltraités à cause des salaires. Et je lui ai aussi demandé comment il se sentait par rapport aux gens qui avaient de l'argent et qui n'en donnaient pas. Et du coup, grosse claque, il m'a répondu avec le plus grand calme du monde qu'il ne pouvait pas leur en vouloir et qu'il ne leur en voulait pas et que pour lui, chacun devait se concentrer sur soi-même dans la vie pour ne pas se laisser détruire en se concentrant sur des gens mauvais. Et que quand notre maison brûle, il ne faut pas crier que notre maison brûle, mais il faut essayer d'éteindre le feu. Et que si on commence avec un seau, on a déjà commencé avec un seau. Et dans ce processus-là, on pouvait peut-être trouver quelqu'un qui allait nous aider à éteindre ce feu. Et qu'au final, on ne sait pas par où chaque personne est passée pour avoir l'argent qu'ils ont. Et pour finir avec Imane, tu sais, la liberté, ça a un prix. Il y a malheureusement des gens qui n'ont pas besoin de payer ce prix. En France, 50% des ménages possèdent 92% du patrimoine. Et par moments, les enfants sont un peu ingrats.
Au vu de ces chiffres, est-ce que ça existe, la méritocratie, Audrey ? Je pense. Je connais déjà votre réponse. Où sommes-nous dans une société d'héritiers ?
Oui, la réponse, elle est évidente. On est dans une société d'héritiers. La méritocratie n'existe pas. L'ascenseur social n'existe pas. Il va falloir qu'on aille les chercher. Et j'ai l'impression qu'on est dans une période vraiment où... Dans le spectacle sur Arendt, je parle de Jean-Louis Borloo que j'ai rencontré et à qui j'ai posé des questions sur l'abandon de son plan banlieue par Emmanuel Macron. Et à un moment donné, il me dit « Ils sont mauvais pour tout, mais c'est pire là où il y a des besoins. La désagrégation de la France, elle peut s'arrêter très vite, mais il faut les virer. » Puis là, je lui dis « Qui peut faire ça ?» Et il me répond « Ben, vous, pourquoi déléguer ?»
Révolution.
Et vous, Patrick, vous pensez que ça a déjà existé ?
La méritocratie.
Non, jamais comme ça. jamais comme on le dit. Mais en même temps, voilà, ça a été dit 20 fois, en fait. Il y a plein de travaux de sciences sociales qui démontent cette notion de méritocratie. On sait, la question, c'est la tendance, si vous voulez. Voilà. C'est qu'aujourd'hui, tout se raidit, tout se complique et tout, effectivement, indique que nous sommes de plus en plus dans une société de rentiers et d'héritiers. Et donc, on peut toujours dire que, vous savez, il y avait un grand thème du discours politique, c'était de dire l'ascenseur social est en panne. Oui. Les ascenseurs sont souvent en panne.
Il n'a jamais marché.
Alors, il a pu marcher, enfin, je veux dire, en tout cas, on est dans une société qui est aujourd'hui une société plus fluide, voilà, qui n'est plus une société qui est structurellement inégalitaire. Il y a quand même un moment où il faut quand même dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. La Révolution française, l'abolition des privilèges. Enfin, vous voyez effectivement, il suffit de lire la grande histoire des inégalités de Thomas Piketty pour voir qu'il y a quand même des effets cliquets, voilà, qui sont des effets où l'inégalité n'est plus au fond justifiée ni par la loi ni par le statut social, etc. Voilà. Ça suffit pas. Enfin, c'est quand même déjà un élément. Bon. Mais tout se rattrape ensuite, ou tout se dégrade à partir du moment où on ne peut pas compter seulement sur ce qu'on appelle effectivement l'égalité formelle.
Vous ne devez même pas poser la question, en fait. Vous ne devez pas poser la question parce que vous faites croire que quelqu'un pourrait dire « oui, ça existe, la méritocratie ». Mais en fait, non, il ne faut pas rentrer dans ces mensonges-là. Donc ne posez plus la question. Parce que sinon, si jamais vous tombez sur un intellectuel qui vous dit, qui vous débite une réponse, nanana, avec des sophismes et tout, vous lui laissez de la parole publique. Donc on ne pose plus la question. On le sait, la méritocratie, ça n'existe plus. Point.
Je voudrais savoir, pour combien vous bossez pour Bernard Arnault, Audrey? Mon Dieu.
La réponse est toute faite. Je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Je suis d'accord avec vous sur le principe, parce que oui, clairement, pour moi aussi, ça n'existe pas. Malheureusement, on voit encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup, beaucoup de discours qui expliquent que pour eux, la méritocratie, ça existe. Et justement, c'est en écoutant leurs avis et en les démontant après qu'on peut potentiellement aider les gens à comprendre pourquoi ça n'existe pas. C'est pour ça que même si, à mon avis, je ne suis pas d'accord avec ça, j'écouterai la personne parler pour pouvoir lui expliquer en quoi. Après, c'est dur, c'est fatigant d'expliquer aux gens comment ça marche. Mais bon, je sais que parfois, il faut passer par là pour éduquer les gens, pour leur faire comprendre que non, ils ne savent pas tout sur tout et qu'ils n'ont pas toujours raison. Vous ne voulez pas me répondre ? Non, mais en fait, on n'a plus le temps, quoi. On n'a plus le temps et ces gens-là, il faut les manger.
Je suis d'accord, hein. J'aimerais tous les manger, mais bon, j'ai pas un estomac assez grand.
Si, on va les manger.
Et vous, Patrick, vous pensiez pas qu'il faut faire tomber cet état de ce système d'héritage?
Je vais répondre aussi à ça parce que j'ai bientôt 60 ans, j'ai passé ma vie à l'université, d'accord? J'ai fait des choix qui n'étaient pas des choix d'argent ni de pouvoir. J'ai été enseignant. Je ne dis pas que je crois en ce système. Je dis que je l'ai servi ma vie durant. C'est-à-dire que j'ai été à l'université telle qu'elle est aujourd'hui en France, c'est-à-dire dégradée, sous-dotée, négligée, même abandonnée, tout ce que vous voulez, mais où toute ma vie, j'ai reçu des étudiants et j'ai tenté le mieux que j'ai pu de leur donner leur chance. Voilà. Et j'ai même des gens qui passaient des concours, etc. Donc, si vous voulez, il y a quand même des gens qui, dans ce système-là, alors vous pouvez dire que ce sont les pires parce qu'ils le rendent supportable en atténuant les effets les plus scandaleux. Mais je suis d'accord avec vous jusqu'à un certain point, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle la République et qui, dans laquelle moi je vis, hein, et où on tente de donner sa chance à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il y a une méritocratie, ça ne veut pas dire effectivement que... Mais ça veut dire que certains y travaillent, en tout cas, au moins.
Le sujet aujourd'hui, il est un peu lourd, mais heureusement qu'on peut encore en rire un peu. On continue avec Neil Léonce qui nous partage son expérience et son ressenti sur l'argent.
À la jeunesse, les micros!
Les micros, ils sont à qui?
Ils sont à qui?
Ils sont à nous!
Bon, assez rigolé. Vous avez combien sur votre compte là? Vous en faites pas, je vous pose pas la question pour vous voler. Même si avec 21 euros sur mon compte, ça me ferait du bien. Non, on va rester civilisé. Depuis tout à l'heure, on a entendu pas mal d'opinions sur l'argent. On en parle beaucoup. Certains le montrent beaucoup, d'autres pas du tout. Et puis il y a ceux qui essayent de montrer qu'ils en ont en portant plein de bijoux, en portant des vêtements super classe ou en louant Venise pour un mariage, tiens. Vous n'êtes pas dupes. Je ne suis pas dupe. On sait tous qu'ils sont pauvres, ceux-là, parce que c'est trop cher de faire semblant. Croyez-moi, j'ai essayé. L'important, c'est de participer, comme on dit. Mais comment participer à cette course pour l'argent sans perdre tout ce qu'on a gagné? C'est la question que je me pose depuis que j'ai commencé ma VJAC. Ma vie de jeune acheteur compulsif. Quand j'ai eu mon premier salaire, je me suis vu dépenser en une semaine ce que j'ai gagné en un mois. Tiens, j'avais acheté quoi à l'époque? Ah ouais, 4 pantalons. Trop grand, je ressemblais à un clown dedans. Un iPhone Pro. Avoir le meilleur de l'année, aller plus vite sur le net. Et puis, bah, il s'éteint vite pour les connaisseurs. Plusieurs parfums. J'ai arrêté, j'en mettais trop. Mes potes me disaient que je sentais le vomi acide. Un abonnement à la salle de sport. Pour les auditeurs qui ne me voient pas, ça n'a pas trop bien fonctionné. Je voulais des muscles, j'ai eu des dettes. En fin de compte, je me suis fait avoir. Un peu comme vous aussi, j'imagine. Ah, toi, c'était la salle de sport aussi, je crois. Ouais. Ouais, je connais. J'en ai mis du temps avant de me calmer et d'aller vers un adulte responsable. C'est pas évident de se l'avouer. Moi, je suis allé vers le daron. Son opinion sur mon argent est allée assez vite. Je lui ai à peine dit la moitié de ce que je vous ai dit qu'il a répliqué. Eh ben, tu vois, ça va vite, hein. Attends de payer un loyer, de la nourriture pour une famille, les impôts, les assurances, l'essence. Et puis, je me suis arrêté à un loyer. Ça m'a suffi pour me plonger dans un coma. J'ai voulu rester longtemps dans ce coma. Parole essaie d'être coupée. J'ai voulu rester longtemps dans ce coma. C'est confortable de rien dépenser, mais je me suis aussi posé pas mal de questions. Le peu de conversations que j'ai eues avec mon papa m'a fait pas mal cogiter. Maintenant, je veux savoir comment je fais quand c'est l'anniversaire d'un pote mais que je n'ai rien pour lui acheter un cadeau. Comment je fais pour me rendre en cours quand je n'ai pas de sous pour mes titres de transport. Comment je fais pour faire plaisir à ma petite sœur en lui offrant ce petit sac de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Comment je fais? Comment vous faites en tant qu'adulte pour profiter de ce que vous gagnez sans finir en slip à la fin du mois? Comment faire pour que l'argent ne soit pas un frein pour mes désirs et mes envies? J'aimerais que vous réfléchissiez à une réponse. Une réponse que vous donnerez à un mec dans votre entourage qui peut-être pue le vomi acide. À un autre qui porte des pantalons trop grands. Bien à celui dans le public avec un abonnement à la salle. C'était Neil Léonce, messieurs, dames, le jeune acheteur compulsif.
À la jeunesse, les micros.
Merci, merci Neil Léonce, le JAC, jeune acheteur compulsif, pour ta chronique. C'était excellent, j'en ai presque la larme à l'œil. Je vous repose la question, Audrey et Patrick. Est-ce que ça vous a déjà frustré de ne pas pouvoir subvenir à toutes vos envies?
Non. Non.
Et vous, Audrey?
Bah, les envies, bah, les besoins aussi, des fois. Oui. Ah, personne ne peut dire sérieusement que c'est drôle ou même simplement supportable de ne pas subvenir à ses besoins, mais ses envies, non.
Si, moi je crois que je suis très frustrée. Là, j'ai fait, hier soir c'était la pleine lune, donc j'ai fait des vœux pour la pleine lune. Alors j'ai mis l'interdiction du Conseil de sécurité de l'ONU, l'interdiction de la guerre et de la fabrication des armes, la suppression des États-nations, l'interdiction du pouvoir personnel et la réécriture de la Constitution basée sur l'enracinement de Simone Veil. Voilà, c'était mes vœux de pleine lune hier.
Des gros vœux, ça.
Je les ferai avec vous à la prochaine. Ouais. Mais c'est, je trouve ça très frustrant de vivre en ce moment dans... Bah, heureusement que j'ai la foi dans le miracle grâce à Hannah Arendt et grâce à l'histoire aussi. On sait que bah, en 43, personne ne pensait que les nazis allaient perdre, et puis en 45, ils n'étaient plus là. Et il y a un truc qui me fait rigoler, c'est Anna Arendt, elle arrive en Allemagne dans les années 50, et elle me dit, elle me dit, la meuf parlait. Et en fait, elle dit, il n'y a plus une seule personne qui a été nazie. C'est-à-dire qu'elle ne voit plus personne qui reconnaît avoir adhéré à cette... Et donc ça me rassure beaucoup. Je me dis, en fait, il suffit que culturellement ça se retourne pour que du jour au lendemain, plus personne n'aura été en faveur de couper des arbres pour fabriquer une autoroute, bombarder des enfants pour les intérêts de l'industrie de l'armement. Tout ça, ça peut changer du jour au lendemain grâce aux histoires qu'on se raconte.
Oui, c'est beau. C'est vraiment beau.
Moi, j'ai appris dernièrement cette histoire de 30 femmes de ménage de l'université Louvain-la-Neuve en Belgique qui ont licencié leur patron après 3 semaines de grève. Et après, ils ont décidé de lancer une coopérative autogérée. Cette coopérative, elle s'appelle le Balai Libéré. Elle a continué d'exister pendant 14 ans jusqu'à ce que ça prenne fin brusquement après que l'université a dû faire un appel d'offres. Et évidemment, c'est une grande entreprise privée qui les a remplacés. Moi, cet exemple, Audrey, me fait penser à une question. Comment d'autres modèles peuvent survivre dans ce système capitaliste ?
Alors, j'aime beaucoup. Il y a un livre de Daniel Kinn qui s'appelle Ishmael. C'est un livre où c'est une jeune fille qui parle avec un gorille. Et elle cherche un professeur. Et ce gorille lui donne le secret et il lui dit de regarder... les peuples autochtones, par exemple. Et donc, il y a quand même d'autres façons de vivre dans ce monde. Il y a l'exemple des ZAD, il y a Notre-Dame-des-Landes, il y a le Chiapas, il y a quand même des initiatives, le Rojava, il y a quand même des initiatives qui sont parallèles et qu'on peut regarder pour avoir un peu d'espoir.
Mm-mm. Et vous, Patrick, vous en pensez quoi ?
Oui, puis il y a l'histoire aussi. L'histoire, elle n'est pas, c'est pas seulement la chronique désespérante des demi-échecs. Voilà. C'est pour ça effectivement que tous les gens dont parle Audrey, Anna Arendt, Walter Benjamin, Gunther Anders, au fond cherchaient à organiser leur pessimisme. Organiser leur pessimisme, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire être béat. D'admiration et naïf. Ça veut dire qu'il faut être optimiste par méthode. Parce que sinon, de toute façon, ça ne sert à rien. Et dès lors, aller chercher là où ils sont, les exemples, les promesses, des promesses non tenues. Voilà. Pour moi, l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est de se souvenir de ce qui reste à faire. Souvenir de ce qui reste à faire. Ça, c'est très Anna Arendt aussi. C'est-à-dire des expériences, celles que vous citez, par exemple. C'est une expérience. Il y en a plein, des expériences. Oui. Ça se termine toujours mal, les expériences. Mais on n'a jamais perdu son temps à tenter une expérience. Parce que ce qui a été fait pourra être fait. Les promesses tombées peuvent être relevées. Et ce qu'on n'a pas réussi à faire aboutir pourra servir d'exemple à d'autres plus tard. Et ça, c'est d'une certaine manière l'ouverture sur l'histoire, sur la géographie, le monde, la culture, le théâtre. Tout ça, ça doit nous réencourager.
Oui, il faut garder espoir.
Audrey, vous avez déjà un peu répondu à cette question, donc je vous demande à vous, Patrick, est-ce que vous pensez qu'on arrive bientôt à la fin du capitalisme ?
Le non n'est pas une option, Patrick.
Attention.
Oui, bientôt, tout dépend le bientôt. Voilà. C'est-à-dire que par définition, je ne crois pas à la numérologie, je pense que l'histoire est l'art de se créer des surprises. Et en tout cas, le monde actuel n'est pas soutenable, ça c'est évident. Par conséquent, oui, bien sûr, le bientôt peut arriver plus vite qu'on le croit, mais il n'arrivera pas tout seul.
Oui, c'est sûr. On arrive à la fin de notre émission. La parole n'est pas d'argent et le silence n'est pas d'or. On a été très 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 heureux et heureuses de vous recevoir. Merci beaucoup Audrey et Patrick pour votre présence.
Merci,
merci à toutes et à tous, au public, pour votre écoute. Audrey, on vous retrouve à la Syrie jusqu'au 25 juillet pour Comment épouser un milliardaire 2.
et au théâtre du Balcon jusqu'au 26 juillet pour Comment traverser les sombres temps. Patrick, on vous retrouve dans toutes les bonnes librairies de France et sur France Culture dans l'émission Allons-y voir. Et on peut aussi voir tous les jours à 12h15 au théâtre du Chêne Noir dans la nouvelle création d'Éric Bouvron, Cléopâtre, Reine Louvre, Laura Woody. Et surtout, ne ratez pas l'émission de demain, même heure, même endroit, au cloître Saint-Louis pour Tes yeux m'ont rappelé les jours qui ne sont plus. On débattra autour du sujet de l'amour avec les filles de Simone, Naïssem Jalal et Solal Mariotte. Mesdames et messieurs, à demain.
C'était Making Waves Avignon à la Jeunesse Les Micros.
Une série d'émissions enregistrées en public en juillet 2025
lors de la 79e édition du Festival d'Avignon.
Un projet
et une production de Making Waves.
Les Micros.